Chapitre 47. Didès. Alix et Zizo gravirent à pas rapides l'escalier vers la coupole. Une certitude continuait de les hanter. Quelqu'un était venu, ici, avant eux. Qui ? Une autre certitude s'imposait. Ogénor. Qui, à part lui, aurait pu connaître la localisation du labo Utopie ? Qui aurait pu y pénétrer, consulter sa propre fiche, voler celle de sa sœur? Personne d'autre que lui, mais il ne possédait aucune preuve. Ils s'arrêtèrent brusquement. L'escalier de marbre blanc menait à une porte blindée, dont la modernité tranchait avec le décor poussiéreux des étages inférieurs. Au-dessus de la porte d'acier, ils repérèrent des caméras miniatures et des micro-enceintes. « C'est forcément ici !» fit Zizo. « Mais t'as vu le dispositif de sécurité? Il va encore falloir trouver une idée de génie pour entrer !» Ils s'approchèrent davantage, levèrent les yeux vers les caméras. Alix se hissa sur la pointe des pieds devant une enceinte et ordonna à haute voix
« Sésame, ouvre-toi !»
La porte s'ouvrit.
« C'est quoi ce délire ?»
s'étrangla Zizo, abasourdi.
« La formule magique !»
triomphait Alix.
« Tu n'as jamais lu Ali Baba ?»
Elle l'embrassa. Ils entrèrent. Zizo n'eut pas le temps de demander à Alix des explications supplémentaires. Ils s'arrêtèrent, bouche bée, devant le décor qu'ils découvraient. Ils venaient de pénétrer dans un hall couvert d'écrans sur lesquels s'affichaient des yeux géants. Zizo reconnaissait les siens, à droite, et ceux d'Alix, à gauche.
Ce sont des caméras d'identification oculaire, expliqua l'adolescente. Elles ont dû scanner nos yeux avant de nous laisser entrer.
Pourquoi ont-elles ouvert la porte alors? Elles nous connaissent?
Je ne crois pas. Peut-être que, depuis 16 ans, le mécanisme est détraqué.
Ouais. Il peinait à croire que depuis le passage du nuage, personne, à part eux, ne soit entré dans cette partie du laboratoire. Méfiant, ils avancèrent à pas lents, comme si des pièges étaient dissimulés sous chaque pavé du hall. Après quelques mètres, ils se retrouvèrent sous la coupole et se tordirent le cou, subjugués. La voûte était gigantesque, presque aussi haute que celle du sanctuaire ou de la chapelle de Versailles. Mais autant les églises paraissent solides, bâties avec des pierres résistantes à l'usure des millénaires, autant la coupole paraissait fragile. Son dôme semblait recouvert d'un fin film plastique, rappelant la texture du papier, mais présentant la particularité d'être entièrement transparent. Si de l'extérieur, il était impossible de voir à l'intérieur de la coupole, une fois entré sous le dôme, le toit était aussi transparent que du verre, et on pouvait y observer le ciel comme en plein air. Alix et Zizo distinguaient parfaitement les nuages, leurs mouvements lents, le subtil jeu de cache-cache entre le soleil et les voiles blancs.
« C'est ici qu'on a construit l'astrographe !» expliqua Alix. « Le plus vieux télescope de Paris !»
Mais ça, c'était avant que ces tarés d'utopie ne s'installent ici.
Ils marchèrent sous la coupole et examinèrent le laboratoire secret. À vrai dire, ils ne savaient pas quoi regarder en premier, tant tout leur semblait mystérieux. Des dizaines d'écrans d'ordinateurs étaient disposés tout autour de la pièce circulaire. Les terminaux informatiques étaient reliés entre eux par un système complexe de fils et commandés par des claviers et tableaux de bord où s'alignaient des centaines de touches et de boutons. Une véritable cabine de pilotage. Dès qu'ils tournaient leur regard vers le hall de l'entrée, des yeux géants les dévisageaient.
« Alix a raison, » se dit Zizo. Le système d'identification oculaire doit être détraqué.
Sur les écrans, toutes les 3 secondes, un nouvel iris apparaissait. Sans doute ceux de tous les visiteurs entrés un jour dans le labo par ordre chronologique. Des yeux défilaient, clairs ou foncés, ronds ou bridés, derrière des lunettes ou sans, sous des sourcils plus ou moins épais. Alix et Zizo les observèrent un moment, attendant qu'apparaisse le regard de Marie-Lune, mais aucune trace d'elle ne s'afficha. Ils firent plusieurs fois le tour de la coupole essayant de repérer un bouton qui serait allumé, un voyant qui clignoterait, n'importe quel indice permettant d'envisager que quelque chose fonctionnerait encore. Mais là aussi, ils furent déçus. À l'exception des écrans de l'entrée, tout était éteint. L'ensemble de l'équipement informatique semblait pourtant en état de marche, tout avait l'air d'avoir été débranché la veille par le dernier employé. Zizo et Alix se penchèrent sur les rangées de boutons et essayèrent de comprendre la logique des lettres, chiffres et caractères alphanumériques alignés sur certains claviers.
M1, M2, M3, M10, déchiffrait l'adolescent.
Tu crois que si j'appuie sur l'une de ces touches, je déclenche un nouveau passage du nuage ?
Ça m'étonnerait, répondit Alix.
Ok, alors plouf plouf, donne-moi un nombre entre 1 et 10.
Alix se précipita pour retenir son poignet.
T'es fou ! Rends-toi compte, c'est d'ici que le nuage a été commandé. On n'a aucune idée de la façon dont ils ont procédé. Ni si tout est désactivé, ni si...
Zizo éclata de rire.
Je suis peut-être qu'un petit sauvage, mais ce qu'il y a devant nous, c'est juste ce que vous appeliez dans le monde d'avant... Une télé ?
Tu crois ?
Alix vérifia l'ensemble des connexions, mais effectivement l'écran devant lequel il se trouvait paraissait inoffensif.
On prend le risque ? Demanda Zizo.
Oh, si on se plante, prévint Alix, c'est fini. Cette fois, il n'y aura plus aucun bébé pour nous remplacer.
Si ! S'amusa le garçon. Plein de bébés souris, de bébés chats, de bébés sangliers dans le ventre de leur maman. La Terre sera enfin débarrassée de l'être humain.
Idiot.
Et sans réfléchir davantage, sans laisser à Zizo le temps de réagir, Alix appuya sur la touche M9. Immédiatement, l'écran s'éclaira et un caillou jaune vif apparut, dessiné en trois dimensions, pivotant pour qu'on puisse le voir sous tous les angles. Un simple titre s'affichait sous la roche. Pandorite, numéro atomique 119.
Incroyable. Fit Alix. J'ai toujours cru que la liste des éléments chimiques s'arrêtait à 118.
Marie-Lud nous les faisait apprendre par cœur. 1, l'hydrogène. 2, l'hélium. 8, l'oxygène. 26, le fer. 47, l'argent. 92, l'uranium. 118, l'oganesson, le tout dernier de la liste découvert en 2006.
Eh bien, il faut croire que cette fameuse pandorite a été découverte après 2006 et que le secret... a été bien gardé.
Ils ne dirent plus rien pendant plusieurs minutes. Tous les deux pensaient à la même chose. Le jaune vif de la roche, presque fluorescent, ressemblait étrangement au liquide jaune qui s'était échappé du soleil de fer et au sang jaune des animaux empoisonnés 4 ans plus tôt.
À moi de jouer, lança enfin Zizo, faussement enjoué. Plouf plouf, après les chiffres, les lettres. Je fais défiler l'alphabet dans ma tête et tu m'arrêtes ? Stop !
Fit Alix après 3 secondes.
Lettre D.
L'adolescent hésita, se pencha sur le clavier, puis enfonça la touche D. Presque immédiatement, le visage de Marie-Lune s'afficha sur la télévision, bien plus jeune, bien moins ridé que celui qu'il lui connaissait. Sa voix, par contre, était la même que celle à laquelle ils étaient habitués. Elle possédait déjà ce timbre professoral profond et grave, tout autant imposant que rassurant. Elle commença à parler, alors qu'un sous-titre à hauteur de sa poitrine défilait. Didès, 21 décembre de l'an 0.
Chers collègues, chers amis, ce message restera confidentiel. Et a été programmé pour ne pas pouvoir circuler physiquement en dehors de l'enceinte de ce laboratoire. Je serai brève, je sais que votre temps à chacun est précieux et minuté. Chacun d'entre vous sait ce qu'il a à faire. Nous avons programmé ce DIDES avec suffisamment de professionnalisme et de minutie. Mais je tenais à la veille de déclencher la nouvelle évolution originelle à vous rappeler les fondements scientifiques qui la motivent pour que ne subsiste aucune ambiguïté, ni au sein de notre communauté, ni pour ceux qui pourraient en découvrir la finalité. Les derniers constats objectifs sur l'état de notre planète sont accablants. Le jour du dépassement qui indique la date de l'année à partir de laquelle l'humanité vit à crédit
c'est-à-dire qu'elle a consommé tout ce que la nature peut renouveler au cours de l'année, est tombée le 18 janvier. En 2021, ce jour du dépassement était atteint le 29 juillet. En 1970, il était atteint le 29 décembre. Ce fut la dernière fois où notre développement a pu être considéré comme durable. Depuis, nous sommes en sursis. La reprise de l'explosion démographique mondiale, consécutive, comme chacun sait, à la relocalisation des activités, au néonationalisme et donc à la natalité comme seul levier de croissance, accélère encore l'insoutenabilité de notre modèle politique et économique. Nous serons 15 milliards dans 10 ans, 20 milliards dans 30 ans. À l'inverse de l'être humain, les populations animales, hors élevage, diminuent de 40% chaque décennie et près de 150 000 espèces animales ou végétales disparaissent chaque année. Les moins alarmistes des projections prédisent la fin définitive des énergies fossiles dans 5 ans. Les progrès dans l'exploitation des ressources aquacoles ne permettront de combler qu'une infime partie des besoins nouveaux, tout comme les nouvelles énergies renouvelables et les micro-éoliennes de dernière génération. En clair, la fin de notre monde est désormais une certitude scientifique, et nous sommes confrontés à un choix face à cette réalité. Soit attendre que ce monde tombe en ruine, telle une machine obsolète dont les composants rendent l'âme les uns après les autres, soit le reprogrammer, ou, pour filer la métaphore informatique, effectuer un nettoyage complet de son disque dur, sans toutefois en effacer les informations essentielles. Je tiens à le préciser une nouvelle fois, chers collègues, chers amis, la nouvelle évolution originelle ne consiste pas à revenir à l'ère préhistorique, à faire table rase du passé. Elle consiste à ne garder que le meilleur, le plus indispensable, le plus beau de ce que l'homme a pu inventer, et à jeter le reste. Il ne s'agit, au fond, que de faire un peu de ménage, de tri, dirais-je, à l'heure où notre Terre n'est plus qu'une poubelle explosant sous le poids de ses déchets. Le prix à payer est élevé, j'en ai conscience. Il se chiffre à des milliards de vies. Mais n'oublions jamais que ces vies sont, de toutes les façons, à brève échéance, condamnées. En les ôtant, c'est la vie elle-même que nous sauvons. Tout comme on taille le cep d'une vigne ou d'un rosier pour que l'année suivante il puisse repousser. Sans la découverte de la pandorite, il y a quelques mois, la nouvelle évolution originelle n'aurait été qu'un fantasme de scientifique naïf, une utopie. Désormais, nous savons que le Dideth peut devenir réalité même si nous sommes encore loin de connaître l'ensemble des propriétés de ce nouvel élément chimique. Nous sommes donc conscients que ce projet n'est pas sans risque, bien que nous ayons pris toutes les précautions, chers collègues, chers amis, pour que nous puissions accompagner le plus longtemps possible les enfants survivants et les guider vers ce monde de justice, de respect de l'équilibre écologique et de paix qu'en souvenir d'une autre, ils construiront. Je crois tout comme vous en un monde de citoyens plus responsables, plus solidaires, plus désintéressés, parce qu'ils seront mieux éduqués, plus expérimentés et ainsi préparés à ne pas reproduire les erreurs du passé. Admettons que le monde dans lequel nous vivions n'était qu'un brouillon. Imaginons la perfection de celui que nos enfants construiront. Avec toute mon amitié, bonne chance à tous pour le Dideth et longue vie à cette nouvelle terre. Puissent les nouvelles graines que nous allons y semer fleurir comme au plus beau des printemps. Marie-Lune disparut de l'écran. Alix et Zizo demeurèrent un long moment silencieux, ne sachant plus où poser les yeux. Vers les nuages au-dessus de leur tête, vers ces rangées d'ordinateurs, de claviers, de fils ayant commandé la mort de l'humanité, vers ses regards sur les écrans du hall qui continuaient de défiler. « Tu avais raison », finit par murmurer Alix d'une voix brisée. « C'est fou, l'on fait.
ont détruit des milliards de vies. Et ce truc, la pandorite, les a dépassés. Ils ont été contaminés, eux aussi. Moins vite. Mais ils étaient tout autant condamnés. Ils ont tout foiré.
Zizou continuait de suivre la course des nuages à travers la coupole transparente.
Batou, fit-il d'une voix désabusée. Ils ont eu le temps de sauver les gamins de riches dans le château.
Pierre seul a eu des remords et a sauvé d'autres gamins, lui aussi. Au final, on construit quand même ce monde nouveau.
Alix se tordit le cou, embrassant l'univers infini.
La perfection,
grimaça-t-elle.
Un monde de justice et de paix. J'en parlerai à Eugénor.
Zizou se força à rire.
Et moi, à Mordelia.
Ils rirent encore, nerveusement.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
On continue de chercher, dit Alix. On vérifie si tout ce dispositif est bien désactivé. On ignore comment ces fous s'y sont pris pour passer de cette roche jaune, cette fameuse Pandorite 119, à un nuage toxique mortel universel. Et rappelle-toi, on n'a toujours pas trouvé à quoi correspondent les quatre traits de la lettre de Marie-Lune. Il y a forcément un rapport.
Zizou tourna la tête vers la porte d'entrée de la coupole.
Ah, sacrée responsabilité.
On devrait peut-être aller chercher des renforts.
Des renforts ? Répéta Alix.
N'oublie pas qu'en ce moment même, toutes les forces libres sont réunies devant le donjon sous la bannière du grand cerf pour...
Les mots suivants se bloquèrent dans sa gorge. Sur les écrans du hall d'entrée, où les yeux d'adultes enregistrés par la caméra de surveillance oculaire continuaient de défiler, venaient d'apparaître des yeux d'enfant. Alix et Zizou reconnurent immédiatement le regard perçant, les lunettes en demi-lune, les yeux d'Eugénor, quand il avait tout au plus 10 ans.